RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, c'est en train de devenir une véritable tradition. Pour la deuxième année consécutive, les poteaux, en ces derniers jours de l'année, ont décidé de se réunir, non pas autour d'une bonne bouteille et d'un gueuleton. Pour ça, on attend que notre chef vénéré, un certain Wilfried Templier, débloque les budgets. Ça, c'est pas gagné. Non, c'est autour d'un micro que les poteaux se sont donc donné rendez-vous pour désigner les héros rugbystiques de l'année 2025. Voici la cérémonie des poteaux d'or.
Avec Miss Temnay.
La gueule des Miss, quoi.
La gueule des Miss.
Eh bah merci.
Effectivement.
T'as raison.
Heureusement, heureusement.
Heureusement qu'il y a Roxane.
On a une vraie Miss avec nous.
Bonjour, je parlais de nous, Roxane, pas de toi.
Avant de vous présenter donc les Miss des poteaux d'or, on va vous parler des récompenses. On a des tonnes à vous décerner. Alors, il n'y aura pas de trophée ni de prize money. Nos champions ne viendront pas remercier leur famille ni leur premier entraîneur, sans qui rien ne serait arrivé, évidemment. Ce qui compte pour nous, c'est de se remémorer cette belle saison marquée par les victoires du 15 de France dans le tournoi, de l'UBB en Champions Cup ou du Stade Toulousain, vainqueur d'une finale de top 14 au couteau, dont tout le monde se souviendra pendant très longtemps. C'était face au Bordelais. Cela, sans oublier le rugby international, la mainmise des champions du monde sud-africain, qui ont poursuivi sur leur lancée, dominant une nouvelle fois les débats, que ce soit dans le rugby championship, puis lors de la tournée de novembre. En tout, 8 prix vont donc être attribués et tous les journalistes rugby d'RMC ont été sollicités pour désigner leur champion. Avant d'évoquer donc ces catégories, voici tout d'abord nos Miss, nos votants, la crème de la crème des experts de l'Ovalie de France, emmenée par celui dont la voix en cas d'égalité comptera double. Et oui, il est à la fois notre conscience, en même temps que notre aîné, et nous lui devons le respect. Nous devons le respect à ses vieilles cannes et à sa sagesse.
Il adore toujours ce que tu es en train de faire.
Denis Charvet, consultant, chef des poteaux d'or. On l'applaudit, s'il vous
plaît. Quelle honte, alors.
On est bon en costard avec
le total.
Avec le nœud papillon, là.
Ah ouais. Ah, si il est magnifique.
Bonjour,
si
tout le monde.
Avec son nœud pape, ouais. Ça te va bien. Hein, mmh. Tu l'as sorti.
Très bien.
La dernière fois que tu l'as utilisé au Festival de Cannes en 82, non, c'est ça?
Non, l'équipe de France, tournant en 85. 6, pardon.
Très bien. Sa voix en tant que chef du rugby aurait, elle aussi, pu lui valoir un peu plus que celle des autres. Mais finalement, on a décidé que non. Wilfried Templier sera au même niveau que ses ouailles aujourd'hui.
Je me mets au niveau du peuple.
Bah, c'est bien, bien de redescendre un peu.
Là où tu es.
Ton piédestal, mon Will.
Bonjour. Bonjour la plèbe.
Bonjour la flemme. Pour lui apporter la contradiction, je compte évidemment sur deux empêcheurs de tourner en rond. Je pense à Julien Landry et Pierre Thévenet qui nous régalent de leurs commentaires tous les week-ends.
Salut tout le monde.
De leurs analyses précises, un peu caustiques.
Surtout quand on fait les poules de Champions Cup où là je suis très précis.
Bon, oui,
nouvelle
c'est
formule
c'est
de Champions
Cup. T'as été bon là.
T'as été magnifique. Je pense que la Ligue nationale de rugby est en train d'étudier ta proposition avec beaucoup d'intérêt. Enfin, dans cette bande de sangliers, il y a heureusement la sagesse et la main innocente de notre productrice, celle qui tout au long de l'année doit subir les caprices et les folies de la bande des poteaux. Roxane est donc avec nous. Roxane Lacouska, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais évidemment,
bravo.
Vous la
bonjour,
connaissez.
Monsieur.
Bonjour Roxane.
Roxane, juste Christophe bonjour. Dit les caprices et les folies de la bande. Est-ce qu'on peut dire surtout de Christophe quand même?
Surtout de Christophe, comment évidemment.
Ça tout, pas ouais. Du tout. Roxy, c'est toi qui a fait les comptes.
Oui.
Hein, qui a donc,
j'espère que j'ai été meilleure en maths que Pierre la semaine dernière dans le podcast.
Pas trop difficile quand il fait 2 plus 2 égale 5.
Et tu auras la lourde tâche en plus de déceler les enveloppes où se trouvent les noms des lauréats.
Tout à fait.
J'espère que tu es consciente des énormes responsabilités qui pèsent sur tes épaules.
Ouais.
Très bien. Alors, Roxane, avant de désigner les gagnants, donne-nous déjà les catégories qui ont été identifiées pour cette deuxième cérémonie des poteaux d'or.
Alors, tu le disais, il y a 8 catégories cette année. On en a rajouté une par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y en avait 7. Donc, il y a la révélation de l'année, le plus bel essai de l'année, le meilleur match en club de l'année, le meilleur match international 2025, meilleur joueur du top 14, meilleur joueur du 15 de France, meilleur joueur international, toutes compétitions confondues, on précise. Et enfin, on a rajouté le meilleur manager du top 14 qu'on n'avait pas mis l'année dernière. Voilà, c'est notre petite nouveauté de l'année.
Très bien. Une fois les lauréats désignés, nous ferons aussi le tour de table des vœux 2026 des poteaux. Vous verrez, il y a quand même quelques petites folies. Messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts. Alors, on va y aller. On va y aller. Et pour commencer, nous allons donc désigner la révélation de l'année, catégorie pour laquelle voici les nominés. Mais tout d'abord, un petit peu de générique, s'il vous plaît. Magnifique, magnifique, on adore.
C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi.
Alors, dans la catégorie des révélations de l'année, trois noms ont été identifiés par les poteaux. Tout d'abord, Calvin Kurg, le jeune trois-quarts centre du Stade Toulousain, 20 ans à peine et qui, après des années difficiles, est en train de devenir un titulaire en puissance du Stade Toulousain, peut-être aussi de l'équipe de France, où il a fait des débuts remarqués lors de la tournée de novembre. Lui n'a pas encore eu la chance de connaître sa première cape, mais ça ne devrait être qu'une question de temps. Il a le même âge que Gourgue, joue au même poste, mais pas dans le même club. L'équipe de Fabien Broboiry, c'est la section paloise. Là aussi, il régale avec Pau. Et puis notre troisième nominé n'est pas un trois-quarts, mais un pilier gauche de devoir. Il a 25 ans, évolue au Montpellier Hérault et a goûté aux premières joies d'une sélection l'été dernier en Nouvelle-Zélande. Baptiste Erdosio fait partie des révélations de l'année.
Je ne suis pour rien dans ce choix.
Non, pas du tout.
On m'accuse.
Tu m'as devancé.
Je sais d'où vient ce nom. Est-ce qu'on aurait oublié des révélations? Est-ce qu'il y a d'autres... Je parle des joueurs français, hein, du top 14 ou de l'équipe.
Il y en a un, oui, Atisogbe, qui n'était pas...
Il était déjà dans les révélations l'année dernière.
Oui, mais avec ce match qu'il fait en Nouvelle-Zélande, la saison qu'il fait...
C'est plus une révélation, Denis. Il est passé au-delà.
Ah, oui, il y a un an, il était à la tournée d'automne en équipe de France. Ouais, donc, ouais,
L'année dernière, il était dans cette catégorie.
C'était pas lui qui avait gagné le titre de révélation de l'année.
Je ne sais plus. Résultat de l'année dernière.
Très bien, Roxane, tu vas donc...
Jean-Pierre Foucault, il n'a pas toutes ses notes.
J'ai surtout pas de prompteur comme Jean-Pierre avait. Bon,
non, alors l'année dernière, c'était, on avait mélangé aussi avec des joueurs internationaux.
Ah,
c'était
oui.
Wallace Tititi qui l'avait en
fait. Ah, j'étais pas là. Hein.
On a été battus par les étrangers. Roxane, ton enveloppe, tu nous décachètes de tout ça et tu vas nous donner donc la révélation de l'année 2025.
La révélation de l'année 2025 est...
Ah, il est tambour, s'il vous plaît. Roulement de tambour.
Eh bien, ça va devoir être départagé par notre
aïe, ça commence bien.
Denis Charvet. Ah,
ça commence bien.
Ça va être facile. Égalité parfaite entre Calvin Kurg et Fabien Broboiry.
Alors, c'est pas parce que j'ai joué à Toulouse, mais Calvin Kurg me semble le mieux placé, voilà, par rapport à tout ce qu'on a vu. De...
Et comme on s'y attendait pas du tout,
moi,
Christophe...
Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas.
Tiens, on
s'y attendait pas.
On s'y attendait pas, donc on va essayer nous aussi de donner notre vainqueur en écoutant un peu les prestations de ces deux-là tout au long de cette saison 2025.
On va avec Calvin Kurg une première fois, et là dans le fermé, magnifique par contre. Hein. Graou qui s'échappe, et la passe sur un pas d'Anthony Gelon, le troisième ligne, elle a dû te plaire, Pierre Rabadon, pour l'essai de Calvin Kurg.
Magnifique. Et Calvin Kurg, il est impressionnant depuis le début du match. On a vu mettre des points
électrique,
de vitesse.
Hein. Allez, Kurg, il est passé.
Magnifique,
il a percé.
C'est magnifique.
Ah, au 40 mètres, sur l'extérieur. La passe visée pour Bielbiaré.
C'est superbe.
Bielbiaré pour le doublé. Et quelle action,
Calvin Kurg. Voilà, et ce titre de révélation de l'année, je pense qu'il le doit en grande partie sur cette action, oui, ce match, lors du tournoi.
Je voudrais dire que quand tu joues ton premier match international, que tu n'as aucune expérience, tu te retrouves au Stade de France face aux Australiens, et que il te faut assurer que le gamin, il a trois ballons, il fait trois trucs incroyables. Voilà, c'est quand tu as joué au haut niveau, tu te dis, mais il n'est pas fait comme les autres. Pour moi, il n'est pas fait comme les autres.
Mais on fait la révélation des deux mois depuis septembre, ou on fait la révélation
exact,
de toute l'année.
Exact.
Fabien Broboiry, il joue à Pau. Mais moi, j'ai mis Broboiry. Il joue à Pau régulièrement depuis le janvier dernier. Il s'est imposé dans cette équipe. Il est titulaire avec Gaëtan. Il a été appelé sans jouer, mais il a été appelé en équipe de France en février dernier pour préparer le match contre l'Écosse.
Il n'a pas joué.
Il avait été appelé pour la Nouvelle-Zélande sans jouer. Je suis d'accord avec vous.
C'est Erdosio qu'il faut. Mais si on va dans cette logique-là, Erdosio, il fait 26 matchs de l'année dernière, il va en tournée en Nouvelle-Zélande, il est capé en équipe de France en juillet et en novembre, ce que les deux autres n'ont pas. Kurg, il n'a pas la saison entière. Il est capé, mais il n'a pas la saison entière.
Mais révélation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un qu'on n'attendait pas. C'est ça la révélation.
Tu attendais Erdosio, pilier gauche en équipe de France?
Oui, mais...
Si, Julien, oui, mais pas les autres.
Parce que Kurg est un centre, il traverse le terrain. C'est pour ça que vous avez voté pour lui.
Ça joue aussi, Wilfried.
J'ai pas mis Erdosio parce que je trouve que c'était pas une révélation de cette année. Je trouve que ça fait. Même si
c'est cette année quoi ?
Sa première cape.
2025,
non, mais il a eu sa première cape. Non, mais ça fait depuis deux ans qu'il est à Montpellier, qu'il a franchi des palais. Pour moi, Broboiry, on l'a vu débarquer de nulle part en janvier, personne ne savait qui c'était. Il s'est imposé à la section, il fait son premier match titulaire en fin janvier. Il n'a plus jamais quitté l'équipe de la section, appelé par Fabien Galthié. Pour moi, voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que c'était la révélation. Alors après, c'est parce que moi, je suis très Baptiste Cardosio depuis plus longtemps. Mais pour moi, c'est pas pour moi Baptiste Cardosio. La révélation, c'est qu'ils sont en équipe de France. Là, je suis d'accord. Mais pour moi, la révélation du joueur inconnu dont personne n'avait entendu parler, c'est Fabien Brobouari.
Il faut quand même qu'on...
C'est vrai qu'il a
quand même qu'on parle
en fait,
de Gourgue.
Personne n'a voté pour Gourgue, mais c'est quand même lui qui a été désigné.
Il y a combien? Il y a 14 votants.
Il a fait deux mois.
Oui, mais bon.
Il a fait deux mois.
14 votants.
Il y a 14 votants.
Oui, mais ce match, Wilfried, en novembre et son entrée sur le terrain,
c'est exceptionnel. Oui, mais tous ces matchs cette saison, il a électrisé tous ces matchs.
Tous les matchs, c'est ça le problème. C'est que ce qu'on a vu de lui, c'est que c'est incroyable. C'est un ovni, ce mec. C'est pour ça qu'il est largement devant pour moi. Parce que ce qu'il fait sur un terrain à chaque sortie, c'est
il
exceptionnel.
Denis,
tu le mets en équipe de France, il rentre contre l'Australie, il fait marquer.
Enfin, il
fait une percée, non, il a un ballon avant. D'accord, mais c'est là où c'est compliqué. C'est quand tu vas être bon, même 10 minutes, il faut que tu sois très bon. Et lui, il a été excellent. Donc, pour moi, il n'y a pas de
problème. De toute façon, c'est Denis qui avait.
De toute façon, c'est moi, vous n'avez rien à dire.
Dans sa main et qui a donc fait ce choix.
Non, il n'y a pas de photo.
C'est un peu. Tu te considères un peu comme son aîné, comme une espèce de conscience morale de Calvin
Gourgue.
Je vais te dire un truc, je me régale à le voir jouer, tout simplement, parce que c'est pas qu'il soit explosif, c'est qu'il a une intelligence de jeu. C'est-à-dire qu'il a une vision du jeu qui est hors norme. C'est-à-dire qu'il fait des différences parce que, justement, il voit le jeu avant les autres et que c'est pas que ses capacités physiques. Il faut bien comprendre que capacité physique, ça a des limites. C'est pas un mec que tu vas prendre qui va aller vite et costaud qui va faire forcément les différences. Lui, il passe les bras, il accélère, il a des crochets, il a le pied.
Il est incroyable, mais il a deux mois.
Et alors, c'est deux mois.
Eh bien, nous verrons en 2026 si nous avons eu raison de le nommer.
Pensez pour les piliers, pour qu'on n'ont jamais de titre de meilleur joueur du monde.
Ils continueront.
Les laborieux, c'est pas le truc des poteaux. On aime les mecs qui brillent, on aime les mecs.
Et bravo Calvin, voilà.
Et bravo Calvin et bravo Denis. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, quitter momentanément les récompenses individuelles pour mieux y revenir tout à l'heure, car il est temps de désigner les plus beaux essais et les plus beaux matchs de l'année. On va donc commencer par le plus bel essai. Nous en avons retenu trois. Et je voudrais un petit coup de générique quand même, parce que c'est important. On l'a perdu.
Ça ne suit pas du tout. La production est à la ramasse.
On n'a pas trop de moyens.
Ouais. Bon, alors, il y a du montage après ?
Oui, oui. On va devoir
déjà
payer la
très mal limité quand même. On n'avait pas payé la SACEM pour le générique.
Alors, pour le titre de plus bel essai de l'année, nous allons notamment évoquer la très belle réalisation de l'Australien du bébé, Adam Coleman, en finale de la Champions Cup. Rappelez-vous de cet essai incroyable face à Northampton après un numéro exceptionnel de Mathieu Jalibert, faut-il le rappeler. Également, on ne pouvait pas nommer et citer Jalibert sans citer aussi Romain Ntamack, auteur d'un magnifique essai en demi-finale du top 14. C'était face à Bayonne, après là aussi un numéro fantastique et une passe décisive de Malia pour son ouvreur. Enfin, comment ne pas oublier le sprint exceptionnel sur le long de la touche, tout comme son petit coup de pied à suivre pour lui-même de Louis Biolbiaré, qui inscrit un essai décisif lors de la victoire française à l'Aviva Stadium, c'était en mars dernier face à l'Irlande, lors du tournoi des Six Nations. Roxane, quel essai se cache dans ton âme ?
On n'écoute pas les commentaires, parce que c'est
propre
à moi.
Après, on n'écoute que le meilleur.
On n'écoute que lui, c'est fou hein. On aurait dû choisir un autre essai peut-être.
Peut-être qu'on désignera tout à l'heure le meilleur commentateur.
Mes commentaires
aussi.
Avec Denis en écho.
Et bien le plus bel essai de l'année 2025, c'est celui de Biolbiaré, commenté par Wilfried Templier. Oh,
bravo
à Biolbiaré, pas bravo à Denis et Wilfried quand même.
Vous pariez que Denis va dire essai. Je veux pas dire.
Tu as essayé toi?
Ouais, mais non, mais dis-moi, tu dis essai.
Pas essai quand c'est sur la ligne des 22 mètres, Denis. Qui essai quand ils sont dans l'imbut, Wilfried.
Ouais, les gens l'auraient pas compris.
De temps en temps, il y a beaucoup d'essais qui n'ont jamais été inscrits mais qui ont été annoncés par Denis.
Une fois, il m'a repris une fois.
Pensez à nos auditeurs, qu'on n'en pas les oreilles.
Écoutons ce moment de bravoure, ce moment de grâce, donc en mars dernier à l'Aviva.
Troisième essai inscrit à l'instant même, magnifique.
Quel compte!
magnifique essai.
Quelle contre-récupération de ballon, Zerra au milieu de terrain, contre Racon au milieu du terrain avec Penaud. Penaud qui prend le virage à la ligne médiane, qui allonge à sauter pour Bielbiaré. Bielbiaré qui sprint et dans les 22, voir Prendergast qui met un petit coup de pied à suivre, rasant, et il est à la sortie. Il marque, même Lucu n'était pas loin de marquer aussi derrière. Doublé pour lui, Bielbiaré.
C'est pas en direct en plus.
Mais non, on était en pub.
On était en pub.
Donc en fait, c'est même alors, Christophe Cessieux qui.
Alors, vous savez que d'habitude, lorsque. Alors, on vous explique un petit peu les coulisses de ce qui se passe. Lorsque nous sommes en pub et qu'un essai est sur le point d'être inscrit, Wilfried reprend la parole. En studio, on enregistre et de temps en temps.
Il fait semblant et c'est très mauvais d'ailleurs, tu l'as vu.
Il s'est passé quoi là alors ?
Et là, je ne sais pas.
Là, on a pris.
C'était tellement mauvais qu'ils ne l'ont pas gardé.
Ouais, ils ne l'ont pas gardé.
Non, alors vous voulez aller au bout des coulisses.
C'était pas à la hauteur.
Vous voulez aller au bout des coulisses, c'est que l'essai a lieu au moment où vous reprenez l'antenne. Donc Wilfried ne peut pas commenter, sinon il est en train de commenter quand vous reprenez l'antenne.
Ah, d'accord.
Au bout des explications.
Quel match, en tout cas, quel match. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
Moi, j'ai pas choisi celui-là.
T'as pas choisi.
Jalibert, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Dans un petit espace comme ça, de conclure cet essai après avoir fait 5 crochets et d'avoir la lucidité de donner ce ballon cloche à Coleman. Mais c'est surtout que s'il ne marque pas là, c'est pas sûr que l'UBB gagne ce final. Hein. C'était très compliqué. Hein. Ils font la différence juste avant la mi-temps. Je crois que
c'est un des premiers essais du match, je crois, non ? C'est pas le premier.
Non, je vous suis
du match, me semble-t-il.
Mais en fait, je trouve que Mathieu, sur ce match-là, il fait beaucoup de différence.
Je crois que c'est en première mi-temps, les idées.
Oui, mais en première mi-temps, je te dis. Mais avant la première mi-temps, je te dis. Avant la mi-temps.
Non, mais cet argument de ces décisifs marche aussi pour l'essai de Bielbiaré. Il y a 15-13 pour la France. On a perdu Antoine Dupont en première période. Et cet essai-là, il sort de nulle part sur une contre-attaque où il se le fait absolument tout seul.
Quand même. Et puis, à Dublin, face à l'Irlande.
Il symbolise l'année de Louis Bielbiaré aussi, parce que c'est l'essai qui.
8 essais inscrits en équipe de France.
Il symbolise les essais de l'équipe de France. L'année dernière aussi, absolument. Dans la façon de faire, dans la récupération, t'as pas à suivre et bip bip, tu cours. Ouais. Vas-y. Et il grille tout le monde. Hein.
Et Lucu lui vole presque. Il se gêne dans l'embut tous les deux, Bielbiaré et Lucu au moment de la placière.
Il le vole à Lucu en fait.
Oui, mais ça a failli.
Il est pas loin de marquer,
ça a failli
Lucu,
faire un.
Il déborde le défenseur irlandais dans
le but. Il déborde le cul aussi.
Qui se fait complètement déborder.
Et c'est magnifique quand même.
Non, mais magnifique, oui, on a vibré. Ouais, hein.
Tout est beau, la course en travers de Penaud, qui vient en soutien de Ramos, tout est beau dans cet essai.
Ouais. Magnifique essai donc qui symbolise la saison du 15 de France, en tous les cas la première partie de saison, et ce tournoi remporté, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Après le plus bel essai de l'année, nous allons donc maintenant nous pencher sur le plus beau match en club de cette année 2023. Ah, ça y est, ça suit ça. Je sens la machine est rodée. Avant que Roxane ouvre son enveloppe, voici les matchs nommés. Ce sont 3 finales. Tout d'abord celle de Pro D2 qui opposait Montauban et Grenoble, et l'exploit incroyable des outsiders montalbanais qui renversent le favori grenoblois 24-19 à l'issue d'un match au couteau qui a donc ouvert les portes du top 14 au Tarn-et-Garonne. Autre finale au couteau dont on a déjà parlé tout à l'heure, celle de Champions Cup et le succès de l'UBB aux dépens des Anglais de Northampton, c'était à Cardiff en mai dernier, victoire 28-20 pour les hommes de Yannick Bru qui décrochent le premier trophée de l'histoire du club. Moins de succès en revanche pour les Bordelais quelques semaines plus tard en finale du top 14, cette fois-ci où ils subissent une nouvelle fois la loi toulousaine, mais à la différence de la saison dernière, tout s'est joué dans la prolongation où l'expérience toulousaine a joué, offrant ainsi à la formation du Gomola le 24e Brennus de son histoire. Finale incroyable. Alors, quelle finale vous a le plus emballé ? Moi, j'ai bien une petite idée quand même. Hein. Je sais pas pourquoi.
Peut-être qu'on n'aura pas besoin de Denis pour trancher.
Je crois qu'on n'aura pas besoin de Denis pour trancher. Voyons si j'ai bon avec l'enveloppe de Roxy.
Unanimité totale. Oui, unanimité quoi en fait.
Si ça te fait plaisir, on peut dire unanimité totale.
La finale de top 14 qui opposait Toulouse à l'UBB.
Et la victoire donc après prolongation du Stade toulousain qui s'impose 39-33. Finale incroyable, Denis. On en avait rarement connu.
Surtout par rapport au suspense, surtout à la fin du match, oui. Où on croit que Bègle ne reviendra jamais. Puis finalement.
Ils appellent encore Bègle, toi.
Bordeaux, oui, mais j'ai un problème avec ça.
Ouais.
Moi, je trouve qu'on a rayé de l'histoire une épopée béglaise qui était formidable. Mais bon, ça, c'est mon problème.
Les gens qui appellent toujours Montferrand, Christophe.
Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça, je trouve que Laurent Marty a déconné, il déconne énormément là-dessus.
Ah bon ? Oui. Tu aurais voulu qu'il garde...
Mais qu'il fasse passer le message. Là, voilà, pour aujourd'hui...
Oui, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est le premier, le premier trophée de l'histoire du club. Mais effectivement, ce club a remporté quand même un paquet.
Mais c'est le même club. Le problème, c'est que c'est le même club et on a décidé d'en faire un autre.
Normalement, non. Mais bon. C'est la fusion du SBUC et de...
Oui, mais on s'en se comprend. Je veux dire, c'est Bègles Bordeaux, c'est l'UBB aujourd'hui. Ouais, tu peux me dire ce que tu veux, c'est le prolongement. Mais bon.
Bah, si tu dis ça aux gens du SBUC, ils seront peut-être pas d'accord.
Oui, mais...
qui ont déjà eu des boucliers en plus dans l'histoire, le stade bordelais.
Plus lointain, mais effectivement, ils ont eu.
Peu importe, je sais pas, qu'est-ce qu'on disait, on parlait de quoi ?
On parlait de la finale.
Ouais, d'accord, peu importe. Si tu es
parti sur non, mais ça m'énerve. En plus, je le pense vraiment.
Hein. Ouais. Ouais. Ok.
C'est pas pour défendre mon ami Vincent Moscato.
Ils ont été battus, mais pas pour.
Mais je sais que ça leur fait de la peine.
Ah ouais ?
Oui, tous. Non, mais c'est vrai ce que je te dis.
Vincent a l'impression d'avoir été rayé de l'histoire ?
Oui.
Ouais, c'est vrai ?
Oui, ouais, bah, je le dis, oui.
D'accord.
C'est vrai. Il n'en parle pas parce qu'il a la pudeur. Mais...
pudeur, oui. C'est vrai que c'est un mec très pudique.
Pour certaines émotions, oui, monsieur.
Cette finale, sinon.
Cette finale. Rappelez-moi ce que vous avez vécu. Moi, je n'étais pas avec vous ce jour-là.
C'était interdit.
J'ai loupé la plus belle finale depuis sa naissance.
Je sais.
À laquelle on a assisté.
On n'assisterait pas à la plus belle finale depuis l'histoire de sa naissance.
Bien sûr.
Non, mais c'est un mano-mano avec des changements de leader au niveau du score. On pensait Toulouse bien au-dessus un moment et Bordeaux va chercher ça avec cette dernière pénalité de Lucu,
mais qui est pas simple en
mais
plus.
Dans l'ensemble, ouais, qui est pas simple, qui est un moment de tension incroyable. Vous imaginez sur la dernière seconde, quoi. Si voilà, ouais. C'est bon,
non,
ça
fait incroyable,
la même chose au final.
Non,
mais il y avait cette prolongation où je me rappelle qu'on se regarde tous sur ça dans un qu'est-ce qui va se passer. On n'a pas bien les règles en tête, on les regarde. Enfin, il y a un truc de nouveau qui est arrivé sur
et
cette,
puis cette prolongation, les Béglés peuvent très bien la gagner. Ça se joue rien.
À Pita qui gratte des ballons.
Oui, de ballons.
C'est quand même autre chose que la finale de l'année d'avant. Hein.
mais c'est toujours pareil, c'est la maîtrise toulousaine au final. Hein, parce que tu te fais égaliser après la sirène, tu prends un gros coup derrière la tête, mais la prolongation du stade toulousain, il faut la revoir
parce qu'elle est exceptionnelle.
Le sang-froid, tu sens que tu as l'impression qu'ils étaient préparés à faire ça. Ils sont d'une froideur, c'est exceptionnel la prolongation du stade toulousain. Ils font, je pense, quasiment pas une faute. Ils donnent rien, ils donnent plus rien au Bordelais. Et Ramos met les points qu'il faut. Non, la prolongation, en plus du match, la prolongation, elle est stratosphérique du stade toulousain.
Ah, et puis t'as qui vient sur les rucks mettre les bras pour gagner deux pénalités de Ramos. C'est
lui qui fait la différence.
Et la performance des avant toulousains sur ce match, Willis, Jelonche, c'est voilà. Mais l'UBB a eu quand même à la suite d'un titre bien fêté. Ils étaient vraiment pas loin du doublé. Comme La Rochelle en 2023 et finalement à la fin. C'est Toulouse qui gagne.
Eh oui, dans le championnat de France, c'est toujours Toulouse qui finit par gagner. Ils laissent la Champions Cup ou la Coupe d'Europe à leurs adversaires, mais ils restent les maîtres du top 14 et nous verrons cette année s'ils sont capables une nouvelle fois de réaliser cet exploit. Donc, cette finale qui reste dans les mémoires comme le plus beau match de l'année pour les poteaux et donc élu poteau d'or du match de l'année. Après le meilleur match de club, passons maintenant au meilleur match international, avec là aussi trois rencontres qui ont marqué les esprits, à commencer par l'exploit incroyable
de la France.
Non.
Bah, t'as réclamé, t'assumes maintenant.
J'adore. Trois rencontres qui ont donc marqué les esprits, la victoire des Springboks. Rappelez-vous, c'était en septembre dernier, qui inflige à la Nouvelle-Zélande la plus lourde défaite de son histoire à la maison. Donc c'était à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, où les Blacks s'inclinaient ce jour-là 43-10. Incroyable. Une véritable humiliation, on n'avait jamais connu ce genre de choses.
Jamais de l'histoire, mais en fait, de mon vivant, je n'avais jamais vu une déroute
même
comme ça.
Même avant que tu naisses, ce n'était pas arrivé.
Je n'étais pas né.
Les Boks n'ont pas tout gagné, non, ils ont aussi perdu à la maison face à l'Australie. Les Wallabies, auteurs d'un exploit que peu ont su réaliser en 2025, ils étaient pourtant menés 22-0 à la mi-temps, avant de tout renverser, de s'imposer 28-22 à la fin du... 28 ou
c'était en Australie le match.
C'était
c'est l'Australie. C'est sûr.
Je crois que c'est en Afrique.
38-22.
38-22. Je crois que c'est en Afrique du Sud. Incroyable scénario.
À Johannesburg. C'était à Johannesburg.
Ah ouais. Oui, voilà. Incroyable.
Voilà, tu vois, tu me remets.
Non, mais j'avais vu ce match. C'est...
Oui, mais tu ne savais pas où tu étais, en fait. Enfin, la victoire dont on rêvait sans trop y croire, celle de l'équipe de France, on en a déjà parlé tout à l'heure à Dublin en mars dernier, où les Bleus de Biel-Biarré, déjà récompensés, renversent les Verts 42-27, victoire qui leur ouvrait les portes vers un succès dans le tournoi qui a été confirmé la semaine d'après, après un succès contre l'Écosse. Lequel de ces trois matchs vous a fait le plus vibrer ? La réponse se trouve dans Love Up de Roxane.
Et le meilleur match international 2025 est Irlande-France, la quatrième journée des Six Nations 2025. Donc on a entendu un extrait tout à l'heure.
Exactement, avec l'essai de Biel-Biarré. Donc là aussi, ce match qui décroche tous les suffrages. Je crois qu'on est à 9 voix pour ce match.
9 voix contre 5. Non.
Qui a voté pour un autre match ?
Moi.
Moi, j'ai voté le Nouvelle-Zélande-Afrique du
Sud. Ah ouais, moi aussi, parce que par rapport à l'histoire même. Parce que cette seconde mi-temps, moi, elle m'a marqué. C'est incroyable. Quoi. On n'a pas l'impression que ce soit vrai, quoi. Tellement c'était surréaliste. C'est-à-dire que des Blacks...
42 à 10.
Les Blacks, on aurait dit des juniors qui se faisaient marcher dessus. C'était impressionnant. Ils auraient pu leur en mettre 50. C'était pareil. J'ai jamais vu ça, moi, au niveau international. Et ce n'est pas une démission en soi. C'est que les autres étaient beaucoup plus forts.
Mais après, est-ce que tu considères...
Je trouve que c'est un match qui marque la bascule dans la saison et dans les saisons à venir. C'est-à-dire que les Blacks rentrent dans le rang. J'ai l'impression que les Blacks rentrent dans le rang. Que plus personne n'a peur des Blacks aujourd'hui, contrairement à 3-4 ans où affronter les Blacks.
Non, mais t'as raison, ils font plus peur.
Et qu'aujourd'hui, tout le monde a peur d'affronter les Boks et que les Boks est aujourd'hui devenu une machine à détruire.
Et ce match, il a vraiment la signification.
Exactement. Et que du coup, on accueille les Boks, nous, en novembre, avec cette image-là, en disant ils sont capables de détruire tout le monde.
Exactement.
Ce match, ils ont changé de dimension et ils ont fait changer d'approche le regard qu'on a sur les sélections internationales.
Et tu crois que ça a influé justement sur le caractère des Bleus avant d'entrer sur la pelouse ce jour-là ?
Je pense comme Julien.
Parce qu'on se rappelait surtout du quart de finale face à cette...
Oui, mais là, ils ont évolué, les Springboks. C'est dans ça que c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils ont... Non seulement ils gagnent, mais en plus, ils évoluent dans leur jeu. Ils changent d'équipe d'un week-end à l'autre. Ça ne change rien. Enfin bon, je trouve ça hallucinant.
De toute manière, Wilfried, c'est la plus belle équipe de l'année 2025. Il n'y a pas à tortiller autour de ça.
Vous ne voulez pas disserter sur Irlande-France qui a gagné,
on en a beaucoup parlé.
On passe 40 points à l'Irlande à Dublin avec 5 essais.
Non, mais c'est vrai.
Regarde notre
Afrique du Sud,
Nouvelle-Zélande.
Qui a gagné le vote ?
Souviens-toi. Oui, mais alors je vais te dire.
Et on disserte sur l'autre match. C'est marrant. Si c'est Miss Guadeloupe qui gagne, on ne parle pas de Miss Nord-Pas-de-Calais.
Ça dépend de ce qu'elle balance sur Miss Guadeloupe.
Moi, je n'ai pas été impressionné par la victoire française.
Quoi ?
Parce que les Irlandais ont été nuls en défense. T'as des statistiques des Irlandais qui sont catastrophiques.
Ils ont pas été nuls en défense contre l'Afrique du Sud.
Oui, mais on te parle des box. Non, mais oui, ils ont été dominés alors que les Irlandais, ils ont été... Ah, pardon, excusez-moi.
Tiens, c'est Miss Guadeloupe.
C'est Miss Guadeloupe.
C'est le président de la fédé irlandaise. C'est le plus beau match de l'équipe de France. C'est le plus beau match de l'équipe de France depuis très longtemps. Et évidemment que c'est un exploit d'aller gagner, d'aller en passer 40 en Irlande.
42 points.
Non, t'as pas dit que c'est pas un exploit, mais voilà.
Rappelle-toi dans quel état nous étions à la sortie du match. On se regardait, on n'y croyait pas.
Mais on a pas
oui, mais un truc incroyable.
Ce qu'a dit Julien, c'est...
Et on s'y attendait vraiment pas.
C'est exactement la justification de pour moi, du match de l'année, c'est cette victoire des Springboks. C'est le plus marquant. Non, mais en tout cas, marquant. Pour moi, c'est le plus marquant.
En tout cas, ce match entre la France et l'Irlande avait été pronostiqué quelques jours auparavant dans les poteaux.
On l'avait présenté dans...
Évidemment, nos experts... qui pue le rugby avait bien senti le truc, écoutez ça.
C'est parti entre l'Irlande et la France.
Je trouve qu'on a un jeu trop lisible et que ce jeu-là contre les Irlandais, je vois pas comment il peut fonctionner.
Allez, on avance en crabe, mais on avance vers la ligne, on avance bien, il y a avantage. Allez, ce ballon qui est sorti dans le fermé, Dupont, l'extérieur, bien ouais,
si cette stratégie-là passe en Irlande, je serai le premier à m'incliner et à trouver que les Bleus ont franchi un palier.
Et c'est les Bleus ! Et c'est debout dehors ! Et c'est debout dehors !
Non, mais je tiens à des fois modérer, des fois l'enthousiasme.
On est à 2 mètres maintenant ! On continue le marteau pilon avec Gégou à nouveau qui est venu dans l'axe.
On leur fait mal, ouais.
Et qui repart, attention ! Et c'est Gégou !
C'est pas trop la faiblesse des Italiens que je veux pointer ou la faiblesse des Gallois, c'est plus la capacité des Français à répéter ce schéma de jeu, cette façon de jouer et de gagner des gros matchs en jouant comme ça.
Il a un penalty. Il va égaliser Blanco. Il va Monsieur Blanco.
Je sens un peu en dessous. Comme je, moi, je pense que ça va être accroché, mais je suis pas sûr qu'on fasse cet exploit parce que c'est quand même un petit exploit d'aller les taper là-bas.
42-27 pour l'équipe de France ici à Dublin. 5 essais marqués, un bonus offensif, 2 points d'avance au classement du tournoi Destination et le destin en main face à l'Écosse.
On appelle ça tuer le rugby quand même. Hein.
Il n'y a pas à dire, on a des experts aussi.
La tronçonneuse était enrayée ce jour-là. Là. Mais
quand on est aveuglé par sa colère contre Fabien Galthié, ça fait que des fois les gens disent des bêtises.
Je ne suis pas en colère
contre Fabien Galthié. Arrêtez de croire ça en plus.
Vous avez la parole à la défense.
Qu'est-ce qui t'a fait à Montpellier?
Qu'est-ce qui t'a fait, Fabien?
Rien, justement, mais rien, il ne m'a rien fait.
Bon, Julien, alors tu as été, comme nous tous, surpris, encore plus que surpris justement par la victoire française ce jour-là. Tu ne t'y attendais pas, on vient de l'entendre dans ses commentaires d'avant-match. Tu étais accompagné de Nicolas Paolorsi qui n'y croyait pas plus que toi. J'y croyais pas vraiment non plus. Hein,
je bah, dois aucun bien, ce jour-là n'y hein, croyait. Hein.
Peut-être Wilfried, parce que Wilfried il aime bien croire en l'équipe de France.
Moi j'y croyais.
Bon, comme il sert des mains les week-ends, il faut qu'il soit.
En fait, j'étais le seul qui y croyait.
Ah, il l'a mauvaise.
Non, Julien, pour revenir sur ce match, tu n'y croyais pas?
Non, mais le
pourquoi
tu
n'y croyais pas? Parce que le début du tournoi, parce que la défaite face à l'Angleterre,
parce que je pensais que les victoires contre l'Italie et le Pays de Galles étaient certes probantes, mais je pensais qu'ils n'allaient pas réussir à franchir le cap. Et ils ont fait un match exceptionnel en Irlande, où tout fonctionne avec Biel-Biarré, Penaud, et que toute la stratégie qu'ils avaient mis en place, toutes les innovations en tout cas, avec tous ces petits jeux au pied dans le champ profond, je pensais que c'était lisible ce qu'ils avaient fait, et ils ont réussi à contrecarrer les plans des Irlandais, et ils sortent peut-être l'un des meilleurs matchs du mandat de Fabien Galthié, des deux mandats de Fabien Galthié même. Oui. Je pense que c'est du niveau du France-Nouvelle-Zélande le 43, d'avant 2023.
Au stade de France en
50 matchs qu'a joué Fabien Galthié. Oui, je pense que sur les 50 matchs qu'a joué Fabien Galthié en équipe de France, c'est l'une de ses trois meilleures rencontres. Et c'est un match, évidemment, à saluer. Et c'est une performance majuscule des Bleus ce jour-là.
Parce qu'on dit que les Irlandais, comme disait Denis, n'étaient pas bons ce jour-là, machin. Si on ne les bat pas, ils font le grand chelem cette année-là quand même. Et eux battent l'Angleterre, ce que nous, on ne fait pas. Ils vont en coller 30 en Écosse aussi. Donc, c'était quand même une équipe qui tournait bien. Et on leur en a quand même collé 42 à Dublin, ce qui est assez rare.
Ouais, les Irlandais, j'ai trouvé très suffisants lors de ce match. Bon, suffisant,
mais on leur a mis suffisamment la rouste pour qu'ils s'en souviennent lorsqu'ils vont venir au Stade de France dans quelques semaines maintenant pour l'ouverture du tournoi des Six Nations 2026. Après les envolées internationales, revenons maintenant s'il vous plaît à notre cher Top 14 afin de désigner le meilleur joueur du championnat de l'année. Et ils sont plusieurs à avoir marqué les esprits, à commencer par le flanqueur anglais Jack Willis, désigné justement meilleur joueur du top 14 par nos confrères de Canal+, après son incroyable saison sous les couleurs toulousaines. S'il n'a pas été sacré champion de France, sa saison en club fut tout de même de toute beauté. Mathieu Jalibert, l'ouvreur bordelais, fait lui aussi partie des nommés. Il est l'un des symboles de la formidable saison vécue par
Guingamp.
L'aviron bayonnais, dont la marche triomphale ne s'est achevée qu'en demi-finale du top 14 face à Toulouse. Le trois quarts fidjien Cyrilli Makala fait partie de la liste des meilleurs joueurs du top 14. Il a marqué de son empreinte et de sa classe l'équipe de France en 2025. Sa saison en club vous a-t-elle autant marqué? Louis Biel-Biarré, l'ailier bordelais, est évidemment de la liste des meilleurs joueurs. Enfin, qu'il soit arrière ou demi d'ouverture, il aura été le patron du Stade toulousain en 2025, sachant presque faire oublier Antoine Dupont. Thomas Ramos, là aussi, fait partie des favoris au titre de meilleur joueur du top 14 2025. On a quand même là la crème de la crème, le grade, comment vous dites dans le SMS,
le grade d'off du
rugby français. Roxane, lequel de ces cinq artistes a le plus convaincu les poteaux?
Le meilleur joueur du top 14 en 2025 et Thomas Ramos.
Thomas Ramos qui, donc à la différence de Canal, eh bien, vous avez fait le choix de la préférence nationale. Non,
pas tous.
Il a été 8 voix pour Ramos, 5 voix pour Jack Willis, 1 voix pour Mathieu Jalibert. Je pense que c'est celle de Nicolas Paolorsi. Il n'y a pas à douter.
Moi, j'étais Team Canal+. J'étais Jack Willis.
T'étais Willis, toi?
Moi aussi.
Toi aussi.
Et eh bien, tu mens, c'est même pas Thomas. C'est... Il a voté Thomas Ramos.
Ah oui,
voilà, Paul Orsi, quand même.
C'est pas beau ce que tu fais, Christophe.
de pointer le doigt comme ça. Alors.
Mais bon. Moi, parce qu'il y a d'autres endroits pour voter Ramos. Et donc.
Commencez par Ramos. Commencez par Ramos.
Commençons par Ramos, c'est lui qui a gagné.
Oui.
Alors. Donc,
ceux qui ont voté Ramos, du coup.
Ceux qui ont voté Ramos. Denis.
Non, moi, j'ai déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, je suis manager d'une équipe de top 14.
Tu mets Ramos et ensuite tu construis l'équipe.
Le premier joueur que je recrute. Bah oui, voilà, le premier joueur que tu mets sur, que dans une composition d'équipe, tu mets Ramos. Alors,
je ne dis pas que Jack Willis n'est pas dans ce cadre-là, mais je trouve que
y a son
tu
leadership.
Peux trouver un Jack Willis. Tu peux trouver un Jack Willis que tu trouves pas.
Faut bien chercher.
Non, mais Ramos, il a toutes les composantes pour faire d'un joueur incontournable au très haut niveau. C'est un leader naturel, c'est un gagneur, c'est un compétiteur hors norme. J'ai rarement vu un mec aussi compétiteur. Il a la hargne.
Il a encore obtenu un grade supplémentaire cette année.
Ah oui, au niveau du leadership, oui. Et après, bon, on va
l'absence d'Antoine Dupont fait qu'il a pris plus de responsabilités.
Peut-être, sûrement. Et après, on va pas redire ses qualités de buteur qu'on connaît tous. Donc, dans le jeu, il rassure tout le monde, il amène cette confiance. Oui, c'est incroyable.
Et puis, on parlait de sang-froid tout à l'heure quand on parlait de la finale de Top 14. Je trouve que s'il y a un joueur qui incarne justement ce sang-froid à Toulouse, c'est aussi Thomas Ramos, justement, qui apporte une sérénité, je trouve, dans cette équipe.
Alors, il y a peut-être si on cherchait un défaut, parce qu'il y a tellement de qualité.
Peut-être son mois de novembre.
Non, je dis juste sur les ballons hauts, qui progresse sur les ballons hauts. Voilà, mais c'est pas son point fort, mais je pense qu'il y travaille. Mais...
Là, en plus, on parle du top 14, on parle pas d'équipe de France. Donc...
Oui,
non,
mais il a une telle emprise sur son équipe toulousaine, moi, je trouve. Tu vois, sur les... Tout le monde l'écoute.
Quand il n'est pas là, c'est pas la même Toulouse.
Quand ça compte, Julien, dans les moments qui comptent en plus.
Oui, non, mais je suis
impressionné. Il fait 9 sur 9 en finale de top 14.
Oui, faculté qu'il a de passer de 15 à 10 au pied levé. Pour moi, c'est le joueur idéal que tu as. C'est un gagneur hors pair. En plus, il a tendance un peu à charrier un peu les adversaires pour les faire sortir parfois.
C'est un futur grand coach. C'est un futur grand coach.
Je suis fan absolu de Thomas Ramos. Il est déjà coach dans l'âme.
Wilfried, est-ce que le changement de statut de Ramos cette année, justement confirmé par ce vote, fait que son statut à l'intérieur de l'équipe et vis-à-vis d'Antoine Dupont va changer les choses, ou alors les choses sont redevenues comme elles étaient avant lorsque Antoine est revenu au poste de demi-mêlée.
Comme elles étaient avant. Ouais. C'est un patron du vestiaire à hauteur d'Antoine Dupont. Thomas Ramos, à Toulouse. Hein. Et ça l'est devenu en équipe de France, ce qu'il n'était pas avant, parce qu'il n'avait pas la confiance de Fabien Galthié et qu'il a mis tout le monde d'accord. Moi, j'ai voté Jacques Coulis, mais je pense que j'ai voté à contre-courant, parce que j'imagine que ce sera peut-être quelqu'un d'autre meilleur international français, on va y venir. Hein, je voyais plus Ramos sur sa saison en équipe de France et Willis, parce que c'est pareil, c'est comme je parlais d'Ardochou tout à l'heure, Willis, c'est le nombre de. C'est 27 matchs, c'est le mec qui joue les doublons, lui, en fait.
Mais c'est donc, ça, c'est exactement ça.
C'est la finale qu'il fait, un final top 14, vous imaginez, il met un doublé, il est incroyable pour le voir toute l'année, Jack Willis, mais il est en défense, en attaque, il est incroyable.
Juste pour aller
d'une présence dans les rucks, moi je vois pas joueur plus complet que lui. Donc c'est vrai que Ramos lui bute et est très utile et moi je me le mettrais aussi en premier sur une feuille de match, mais Jack Willis, c'est ça que je voulais mettre en avant. Et Thomas Ramos, Thomas Ramos, c'est un patron. Personne ne lui dit rien, Thomas Ramos, quoi. Enfin, on lui dit quoi faire. Il a envie, il lui passe quelque chose par la tête, il le dit, quoi. Ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps en conférence de presse, je préférais l'ancienne Coupe d'Europe, elle me faisait plus rêver.
Il n'y a que lui qui peut le dire.
Il n'y a que lui qui le dit parce qu'il a envie de le dire. Il le pense et il le dit. Donc,
Et puis tu l'as rappelé, c'est vrai qu'il y a deux ans, je me souviens en Irlande, si je ne me trompe pas, Wilfried, il était déjà remis en question par Fabien Galthié.
Il a toujours été.
Il y a deux ans, Irlande, vous vous souvenez du match, il passe au travers.
Mais l'adversité, on dirait que ça lui fait progresser à chaque fois.
Il était conscient.
Il n'a jamais été aussi bon derrière.
Je l'avais vu à l'hôtel, il était conscient du match qu'il avait fait. Mais il ne doutait pas. J'avais été étonné. On a eu une discussion après à l'hôtel.
Il y a un sacré mental.
C'est ça que j'aime chez lui. Parce que Denis, quand en novembre, il a été mis en numéro 10, on avait fait une interview avant. Et lui, il a dit, moi, je veux jouer arrière. Parce que ça m'emmerde aussi pour Mathieu Jalibert. Parce que j'aime bien Mathieu Jalibert.
Pour aller dans le sens de Wilfried, juste sur Jack Willis rapidement. Ramos fait sans doute une meilleure saison globalement. Mais Jack Willis a, je trouve, encore plus incarné le Stade Toulousain. Il fait 20 matchs de top 14 avec Toulouse. Ramos n'en fait que 14. Comme disait Wilfried, il était là pendant les doubles.
doublon, il était là toute l'année. Il est devenu capitaine du Stade Toulousain aussi, donc c'est pour ça que sur le meilleur joueur de club, je trouvais que Jack Willis avait son mot à dire.
Et pour cause, Jack Willis ne peut pas être international anglais, et tant mieux pour nous.
Et son frère Tom débarque à Bordeaux aussi, le numéro 8 de l'Angleterre l'année prochaine. Et
ça les fait pas réfléchir, ça, quand même, les Anglais. Non, mais ça les fait pas réfléchir un peu, les Anglais.
C'est idiot. Alors, quand on voit les Australiens, ils se sont réveillés, les Australiens.
Oui, mais c'est pour que leur championnat reste.
Pour pas perdre trop de joueurs anglais, ça se comprend aussi.
Parce que Ribbans, il va faire la Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud.
C'est vrai que la France est moins loin que de l'Angleterre que de l'Australie.
Donc après, t'as pas les accords, t'as pas d'accord entre la RFU et le top 14. Donc c'est plus difficile d'obtenir.
Non, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup peut-être de joueurs anglais qui viendraient jouer en France.
Très bien. On va quand même se remettre en mémoire quelques-uns des exploits de Thomas Ramos sur les terrains du top 14 en cette année 2025.
On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette prolongation pour donner l'avantage 36-33 pour le Stade Toulousain. Ce ballon qui part bien, qui passe entre les poteaux pour Thomas Ramos. Thomas Ramos qui s'élance, vous entendez la sirène, à moins qu'il la loupe, mais ça prend pas le chemin. Le ballon qui passe entre les paires.
Et c'est le Stade Toulousain gagné.
Le Stade Toulousain, champion de France. Coup de pied de Ramos, le banana kick de l'extérieur, c'est magnifique pour Delib. Delib en 1 contre 1, il est revenu à l'intérieur, il a peut-être mieux à jouer, il va y aller quand même. L'essai, il est superbe, c'est magnifique. Thomas Ramos qui sautille sur le terrain. Yann, tu l'as vu, ce banana kick, ce ballon extérieur, vers, il était au milieu du terrain, Ramos.
Thomas Ramos, que l'on va retrouver dans la prochaine catégorie, puisque nous allons maintenant désigner le meilleur joueur de l'équipe de France de l'année. 5 clients donc pour ce titre très honorifique, où l'on retrouve donc certains des garçons que l'on vient de nommer. C'est le cas de Louis Bielbiaré et de Thomas Ramos, mais également d'un autre Bordelais, le demi-mêlée Maxime Lucu, qui a parfaitement suppléé Antoine Dupont en son absence. Parmi les cités se trouve également le nom d'un garçon que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, Michael Guillard, troisième ligne du Loup, qui a même réussi à pousser Aldrit sur le banc. C'est vous dire l'exploit. Enfin, un autre Toulousain a conquis les foules. Pas facile pourtant lorsqu'on est deuxième ligne d'entrée dans la liste des meilleurs joueurs du 15 de France. Thibaut Flamand a su le faire. Roxane, tout de suite, le suspense est à son comble pour désigner celui qui a donc recueilli le plus de voix comme meilleur joueur du 15 de France 2025.
Le meilleur joueur du 15 de France 2025 est Louis Bielbiaré.
Louis Bielbiaré, déjà vainqueur du plus bel essai de l'année.
C'était serré ou pas ?
Eh bien, étonnamment, non. Ah. Non.
9 voix. Moi aussi, un peu comme Wilfried, pour Bielbiaré, 4 voix pour Ramos.
Un peu plus.
Il a tellement émerveillé les
statistiques de Louis Bielbiaré sur le tournoi.
8 essais en 5 matchs de tournoi.
Mais surtout, c'est toujours avec des exploits quand même personnels incroyables. Donc,
puis il égale un record de vieux de 1914 et 1925. Ils sont que 3 à avoir fait ça avec 8 essais.
C'est lui l'image des Bleus l'année dernière en l'absence d'Antoine Dupont. C'était lui la superstar des Bleus.
Avec une facilité déconcertante. Et il a un peu peiné, au moins, moi, je trouve, à la tournée d'automne.
C'est pour ça que moi, j'ai voté Ramos.
Les deux premiers matchs, les deux premiers gros matchs,
il ne peine pas du tout.
Oui, mais là, il a été bon quoi. Dans l'Australie, les Fidjiens, il a été à la peine contre les Fidjiens.
Les deux premiers matchs, il n'était pas.
Ramos n'est pas étincelant non plus en novembre.
Je veux dire que. Il a été décevant pour la tournée d'automne et après, c'est bien ressaisi contre l'Australie.
Ouais, c'est plus facile, Wilfried, quand tu es ailier plutôt que deuxième ligne pour recueillir les suffrages quand même.
On peut souligner la performance cette année des deux joueurs que tu as cités. Hein. Bon, Thibaut Flamand, ça bouge pas, c'est toujours comme ça, depuis longtemps maintenant. Mais Michael Guillard est une ex-révélation. Mais quel niveau de Michael Guillard en équipe de France En plus, il fait la tournée de juillet. Quoi, donc il fait le tournoi, il va en Nouvelle-Zélande.
Le tournoi en deuxième ligne, la tournée en 8.
Il se blesse contre l'Afrique du Sud après, mais il est d'une puissance, d'une répétition des tâches. En deuxième ligne, en 8. Donc magnifique, Michael Guillard. Mais oui, évidemment, quand il y a Bielbiaré qui marque UTC. Moi, j'avais voté Thomas Ramos parce que il est pour la troisième fois de suite meilleur réalisateur du tournoi, quand même. Quoi. Il a égalé Ogara. Il ne manque plus que Wilco. Wilco a fait 2000, 2001, 2002, 2003. Si Ramos a ça dans le viseur pour le tournoi de
Il a battu Michalak.
Et il a battu Michalak dans l'histoire, en plus, dans le nombre de points dans l'histoire d'équipe de France. Donc je trouvais que ça faisait beaucoup pour Thomas Ramos, c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Mais Bielbiaré ne vole pas ça, évidemment, parce qu'il nous a fait lever notre siège.
Bielbiaré symbolise à mes yeux le renouveau que veut mettre Fabien Galthié. plus de volonté offensive, moins de dépossession. Voilà, en tout cas, sur le tour à destination, sur le tournoi destination, en tout cas, je trouve qu'il avait symbolisé ça. Ce qu'on n'a pas revu en novembre, Denis, je suis d'accord avec toi.
Ah, voilà.
Et je suis d'accord que contre ce petit cadrage débordement contre Colby, contre l'Afrique du Sud, qui ne tente pas, je pense qu'il joue mal le coup, mais il fait une saison quand même exceptionnelle en équipe de France. Le nombre d'essais marqués, je pense que Penaud ne va pas rester très longtemps meilleur marqueur d'essais de l'histoire du CAS de France,
ça peut aller très vite,
vu la vitesse à laquelle va Louis Bielbiari.
Roxane ?
Moi, j'avais voté pour Thomas Ramos, un peu dans la même idée que ce qu'on disait dans la précédente sélection, entre guillemets. C'est pour moi le premier joueur que tu mets sur la feuille de match. Et je trouve qu'avec l'équipe de France, il symbolise aussi un peu toute cette, le tournoi destination. Je trouve qu'il a été vraiment impérial là-dessus. Donc...
Ce truc de premier sur la feuille de match, je suis d'accord pour Toulouse, je ne suis pas sûr pour l'équipe de France. Je sous-estime pas du tout l'importance de Thomas Ramos, c'est un joueur incroyable, mais je...
Il y a des joueurs plus indiscutables que lui, tu
En équipe de France, oui, je pense, mais ouais, pas beaucoup en même temps. Non, mais entre Bielbiaré et Thomas Ramos, je pense que l'un comme l'autre, les absences se feraient vraiment beaucoup ressentir. Et Bielbiaré, je pense autant
Je pense que
Thomas Ramos.
Plus facilement, enfin, plus facilement, c'est un grand mot. Hein.
Il a mis des essais tout seul l'année dernière. Il a créé l'essai contre l'Irlande, il n'y a personne d'autre qui le met que lui. C'est juste ça, c'est-à-dire que lui aussi est capable, c'est pas dans le même rôle. Thomas Ramos, c'est plus un rôle de fédérateur, de buteur évidemment, et de leader, mais Bielbiaré est capable de faire des choses.
Oui, mais ça entre forcément en ligne de compte.
Bien sûr.
Louis Bielbiaré, donc désigné meilleur joueur international, meilleur
20 essais
de...
en 22 sélections, Christophe. Ouais.
Tiens, on va s'en remettre quelques-uns en tête.
Et puis juste pour aller dans le sens de Denis, Ramos a ses lacunes sur le jeu aérien contre l'Afrique du Sud, qui reste malgré tout au niveau international pénalisant pour les Bleus.
Voilà.
Pour Thomas Ramos.
Très bien. Louis Bielbiaré, donc serial marqueur donc lors de cette saison 2025.
Ça vient bien à l'intérieur pour Dupont. Le troisième essai français. Sur ce côté fermé, superbement bien joué par Thomas Ramos. Allez, on avance en crabe, mais on avance vers la ligne, on avance bien, il y a avantage. Allez, ce ballon qui est sorti dans le fermé, Dupont, l'extérieur, bien bien, Bielbiaré, le coup n'est pas en-dessus, qui récupère Bielbiaré, le crochet libre. C'est somptueux ce qu'a fait Louis Bielbiaré. Il a fait du Bielbiaré.
Pas facile pour Wilfried, hein, de temps en temps, avec Denis ou moi, on essaye de prendre la parole et t'es obligé de t'imposer, mais t'as vu, il garde sa concentration.
Oui.
Il s'en fiche, il regarde pas ni à droite ni à gauche.
C'est même pas qu'on est là.
C'est même pas qu'on est là. Surtout, il veut nous faire taire, on a bien compris le truc.
Un peu de cyanure dans le café, et puis voilà, ça sera réglé.
Les exploits, les joueurs ne sont pas les seuls à en produire. Le succès, les équipes, les doivent aussi à leurs entraîneurs et autres managers. Alors, qui a le plus impacté la réussite de sa formation en top 14 cette année? Voici la liste des nommés. Pierre Mignoni, manager de Toulon, qui a achevé sa route en demi-finale du championnat. Christophe Furios, le truculent patron de l'AS Clermont-Auvergne. Mais encore Grégory Pata qui a mené Bayonne à la demi-finale. Et évidemment, le patron des deux équipes finalistes, les patrons, le bordelais Yannick Bru et le toulousain Hugo Mola. Roxane, qui est le meilleur manager de la saison pour les poteaux?
Alors je précise qu'on pouvait pas, il y en a certains qui sont dans ce podcast qui ont râlé sur la présence de certains managers dans cette liste, mais je ne pouvais pas créer cette partie des meilleurs managers sans mettre Christophe Furios qui a été imité à peu près toutes les semaines dans ce podcast.
Souvent imité, jamais égalé.
Donc voilà, pour lui rendre hommage, on était obligé de le mettre dans les meilleurs managers de l'année.
Il est arrivé. Salut Christophe, assieds-toi. Christophe.
On va prendre ta réaction juste après.
Ouais. Attends un peu.
Mais le meilleur manager de la saison pour les poteaux, c'est Yannick Bru.
Bravo.
Yannick Bru, le manager de l'UBB, désigné.
Désolé Christophe.
Christophe, une réaction?
Tu comprends bien que moi je suis pas venu pour empiler des perles, hein. Je peux repartir.
On va faire un concours, tiens. On va faire un concours pour savoir qui est le meilleur imitateur.
Avec mon équipe de Provence Rugby, je suis la deuxième petite protecteur. Hein. Vous avez oublié quand même.
Les gens en main, on fait toujours les mêmes.
C'est pas sympa, les gars.
C'est bien.
C'était donc Philippe Saint-André, là, imité par Julien. Denis, t'en avais un. T'imitais quelqu'un très bien, je m'en rappelle plus.
Pas du tout.
Vas-y, lâche-toi. N'hésite pas, on est entre amis. On est entre amis, Denis.
Non.
Pierre,
non, moi j'ai pas.
T'as rien à imiter? Roxane, t'as rien à imiter?
Oh non.
Les Naïk Corson, non, tu peux pas l'imiter.
Non, je suis pas élu de les Naïk Corson.
Bon, bah, le concours de meilleur imitateur, on le désigne.
Il n'y a pas O qui n'est pas là aussi.
Ouais, c'est vrai que normalement, il y avait Nicolas qui devait être là et qui n'est pas avec nous.
Il fait très bien Maïté.
Christophe Curieux,
c'est Maïté. Il fait même sur Instagram. Même.
Ouais. Bon, pour revenir sur Yannick Bru, donc vainqueur de la Champions Cup, finaliste malheureux, mais pour un rien, on a vu tout à l'heure en finale du top 14, formé, on le rappelle, à Toulouse, dans la grande école toulousaine, et qui aujourd'hui a pris vraiment complètement son envol du côté de Bordeaux. Sacrée saison réalisée par
Bordeaux. Oui, un titre, une finale, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Donc, moi, j'ai mis mon là, mais non pas pour... c'est vrai que j'hésitais, je voulais mettre Yannick au départ, puis après, je me suis dit au mot là, parce que la remise en question du Stade Toulousain était quand même incroyable. Non, non, mais c'est vrai. Il perd en demi-finale contre Bordeaux, il les retrouve en finale. Ça se joue à rien, mais l'expérience de Mola fait aussi la différence, autant que le
joueur. Oui, mais Yannick Bru, quand même, c'est sa deuxième, fait deux saisons à Bordeaux, oui, et les amène en finale sur la première, gagne le titre sur la deuxième et pas loin du doublé. Bon, Toulouse est meilleur sur cette finale, mais fait deux finales. Et dans la construction du club, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai voté pour lui, parce que c'est.
Non, mais t'as raison.
Ça avance
vite
et bien, quand même, Denis, à Bordeaux. Quoi. Ils sont encore là, hein, ils seront encore là cette saison. Donc.
Bègle. Non, mais il a fait changer, même si tu dis que ça reste Bègle, à toujours Bordeaux-Bègle. Denis, mais Bordeaux-Bègle, mais tu sens qu'il a fait changer de dimension ce club-là. Alors, avec Marty à.
Attention,
la tête,
Christophe Furios t'avait qualifié pour les phases finales, ce qu'il n'avait pas fait avant. Hein.
Oui,
donc,
demi-finale, pour demi-finale là, Yannick, ouais. Il a fait.
Il était leader l'année Covid.
Tu sens qu'il. Oui, année Covid où ça s'arrête. Non, mais Bru, tu sens qu'il les a fait changer de dimension.
Bien sûr.
Et puis, c'est un gagneur hors pair élevé à la Guinovèze. Donc, tu sens qu'aussi, là, il y a un enfant toulousain qui est là. Mais oui, tu sens qu'il a fait changer de dimension ce club-là, qui regarde aujourd'hui les Toulousains dans les yeux, ce qu'il ne faisait peut-être pas avant. Aujourd'hui, il y a plus de sentiments d'infériorité.
Et qui sont les seuls à pouvoir faire aujourd'hui.
Et puis, n'oublions pas quand même qu'il a... Il a relevé une équipe qui avait pris 60 ans. Non, mais il a relevé une équipe qui avait pris 60 points en finale du top 14.
Oui, oui, ça.
Jamais une équipe n'avait pris une telle volée
dans son
histoire.
On se demandait comment
il
les
a relevés. Il les a relevés avec un titre et une finale.
Avec un très bon recrutement qui est orchestré avec Laurent Marty.
Et une façon de gérer son équipe différente aussi de la saison dernière où il n'avait pas fait beaucoup tourner. Là, il a réussi à bien manager son effectif.
Et l'empreinte, le jeu qu'ils produisent, avec le staff, avec McNamara. Et voilà, mais bon. Bordeaux, l'année dernière, a été beau à voir jouer. Quoi. Donc, voilà, c'est mérité. Quoi.
Vous savez qu'en 2027, il y a une Coupe du Monde. Il y aura donc peut-être un nouveau sélectionneur après. Je ne sais pas si Julien le souhaite ou non. mais qui vous voyez, vous, pour succéder un jour
pas,
à Galtier ?
Si Fabien, il ne va pas
continuer.
Il va
peut-être continuer.
Il va peut-être continuer. Oh, ce serait du jamais vu. Ça.
Non, il sera rincé.
Trois mandats d'affilée.
Ouais. Il est bien là-bas.
Il est bien, oui. Il est bien.
Non, mais je pense pas. Je pense qu'il y aura un turnover.
Ouais.
Oui.
Qui vous semblerait
ça sera Hugo ou Yannick.
Ah bah mais d'accord, mais je te demande justement de choisir.
Mignoni,
n'oubliez
pas Mignoni.
Mignoni.
Non, mais Bruy, il a prolongé sans clause, hein. Il a précisé qu'il n'y avait pas de clause. Il a prolongé avec l'UBB. Et c'était dit, ça.
Donc, ça veut dire qu'il ne sera pas dispo en 2027.
Normalement, non.
D'accord.
Moi, j'aime beaucoup Pierre Mignoni.
Ouais, petit outsider Mignoni, je dirais pas. Ouais.
Moi, je pense qu'Hugo, il y va tout droit.
Tu crois qu'il
ouais, mais alors de ce qu'il dit, apparemment, c'est qu'il est mieux à Toulouse. Mais bon.
Oui, oui.
Bah, c'est un poste.
Ah, ce serait une suite Denis, logique.
Avec la génération qu'a Hugo Mola, il peut se dire qu'il peut encore en gagner 4 ou 5.
Oui, mais d'accord.
Il peut dépasser Guinovès.
C'est
mais
comme Guig en 2011, on lui propose le poste, il le refuse. Il arrive en 2015, c'est trop tard.
Ouais.
Je pense qu'à un moment donné, tu sélectionnes l'équipe de France.
C'est le président qui l'a pas aidé à Guinovès.
Non, 2011, non, 2011,
oui, c'est... Non, en 2011, c'était pas Bernard, le président, ça aurait peut-être été plus facile.
Non, mais il refuse en 2011, et c'est Philippe Saint-André qui prend sa place.
Exact.
Et en 2015, il arrive, c'est trop tard. Mais c'est trop tard, je dis trop tard par rapport à l'énergie, par rapport à l'investissement. Je pense qu'il était prêt en 2011, et qu'en 2015, c'était un peu trop tard. Donc.
Après, il bénéficie, enfin, le Philippe qui arrive en 2011 ne bénéficie pas de la meilleure génération du 15 de France.
Mais
je ne suis pas sûr que.
Et pourquoi pas une doublette Mola Bru.
Oula.
Non, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Non.
Ou alors Galtier
avec Jean-Baptiste au milieu.
Très bien. Nickel. Alors, messieurs, on n'a pas désigné, on n'a pas fait de case pour le meilleur entraîneur de rugby international.
Il
y aurait
eu
unanimité. Tant le sélectionneur des Box a quand même écrasé de toute sa classe cette saison.
Ah, c'est pas ce qu'ils disent dans le Moscato Show.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Moi, je dis non. Le Moscato Show. Il y a 3 ou 4 des entraîneurs comme Erasmus dans le top 14. Donc.
Ah ouais.
Non, moi, je ne fais que vanter les mérites d'Erasmus en me disant que c'est le meilleur entraîneur au monde.
Ah oui.
Il n'y a pas faute.
Bon, jusqu'à 2031,
surprenant. Hier, Fred Michalak, qui l'a bien connu, nous vantait ses mérites. Et Rory Cocotte, qu'on a reçu aussi.
Vendait ses mérites aussi. Tout le monde. Dit tout le monde dit qu'il est plus fort. Donc.
Et pour les mêmes raisons que l'on connaît. Hein,
de, un coup d'avance.
Le coup d'avance. Un coup d'avance et il bouffe le cerveau de ses adversaires.
Il joue aux échecs.
Ouais, c'est un formidable joueur d'échecs.
Alors que Fabien, Denis, toi, tu dis.
Il joue aux dames. On l'embrasse, Fabien. Écoute, c'est de l'humour.
On l'embrasse à Fabien.
À Fabien, allez. Fabien, on t'aime.
Très bien.
Pas Julien.
Nous n'avons pas créé de case pour le meilleur entraîneur. En revanche, nous allons maintenant désigner le meilleur joueur international 2025. Comme vous vous y attendez, il y a pas mal de Sud-Africains dans cette liste, à commencer par le jeune ouvreur des box, Sacha Fenberg Ngomezulu, comment on dit, Denis, déjà ?
Ngomezulu.
Bravo. Qui faisait partie des révélations de l'année dernière, qui est monté d'un cran, voire de deux, en 2025. À ses côtés, son talonneur, Malcolm Marx, énorme tout au long de la saison avec les box, au point d'être désigné meilleur joueur de la planète par World Rugby. Dans cette liste, nous trouvons également un Anglais que l'on a appris à connaître et qui risque bien de nous causer des tourments dans les années à venir. Il évolue au poste de flanqueur du 15 de la Rose, le très détestable Henry Pollock. Même si les Blacks n'ont pas été au niveau attendu en 2025, Hardy Savea a montré tout au long de la saison qu'il restait l'un des plus grands cadors du rugby international. Enfin, alors j'ai pas bien compris, un Français, Thomas Ramos, qui n'est pas le meilleur, considéré comme le meilleur international français, mais qui est dans la liste des meilleurs joueurs du monde. Ça fait partie des incohérences de cette liste, mais c'est aussi les choix des poteaux. Le poteau d'or,
c'est
le meilleur joueur international de l'année, Roxane, revient à
Malcolm Marx.
Malcolm.
Suivez World Rugby.
Ouais, on n'a pas été très.
Bah non, mais.
On n'a pas cherché plus loin.
Bah non, mais.
Bah, quoi, il n'est pas mauvais. Quand même,
évidemment que c'est logique.
Bah oui, c'est
pas mauvais, logique. Ouais. On n'allait pas mettre Ed Zebet, on n'allait pas mettre.
Moi, j'ai pas mis ça, mais c'est vous qui avez raison.
Il y a eu deux voix pour Pollock. Trois voix pour Fenberg.
Ouais, je suis dans les trois là. Ouais.
T'es Fenberg.
Pour Fenberg.
Non, mais je vous laisse parler de Marx d'abord parce que c'est lui qui mérite.
Il a fait 4 mois quoi. Il a fait 3 mois.
Oui, bah, Gourg a fait un mois et les meilleures révélations. Donc,
oui, mais t'as critiqué Denis pour ça, mais toi tu nous fais Fenberg, donc fais pareil en fait.
Vas-y, fais Marx et je te réponds après.
Vas-y, parle-nous de Marx, Julien.
Non, mais Marx, déjà, moi j'aime bien Marx parce que déjà c'est un talonneur qui peut jouer 78 minutes.
C'est vrai. Donc déjà, il joue pas toujours 78, mais il est capable de le faire.
Je suis d'accord, mais j'aime bien cette idée-là. D'ailleurs, Pierre Mignoni en a parlé dimanche en disant aujourd'hui on a des coachings trop formatés où il faut sortir les joueurs à la 50e. Déjà, tu sais que quand t'as Marx sur le terrain, il peut jouer longtemps. C'est un marqueur d'essai hors pair, c'est un transpalette en mêlée, c'est un gratteur de folie et il symbolise la surpuissance, la surdomination du paquet d'avant des box. Alors évidemment Fenberg il va transformer le jeu des box, mais je trouve que Marx, dans la capacité de ce qu'il t'apporte aujourd'hui à Erasmus dans ses coachings, il sait qu'il a un talonneur qui peut jouer longtemps. C'est pour ça qu'il peut mettre un talonneur remplaçant qui joue troisième ligne, parce que Marx il peut laisser toute la partie. C'est incroyable, mais je pense que Marchand aurait pu jouer plus longtemps contre les box, hein. Mais Marx a une capacité à reproduire les efforts incroyable. Je trouve ce joueur exceptionnel.
Effectivement. Et en plus, il a l'avantage, c'est un avantage pour les box, c'est-à-dire qu'il évolue, je crois, au Japon, dans un club où il peut jouer quand il veut. C'est, ça, c'est un vrai avantage, Wilfried, quand même.
De manière à garder
ses forces pour le 15.
Il fait beaucoup de matchs, hein, quand même, au Japon, mais bon, ça reste le Japon. Et puis surtout, il joue tout le temps, là. Cet été, il fait les 6 matchs du Rugby Championship, il est meilleur marqueur, il fait 4 essais, comme il dit Julien. Il joue l'essentiel de la partie, c'est un monstre physique, c'est un talonneur qui est surpuissant en mêlée, en ballon en main, qui a une expérience maintenant incroyable, c'est un taulier des Sud-Africains. Et puis voilà, c'était arrivé qu'une fois qu'un talonneur soit meilleur joueur du monde avec Keith Wood lors de la première édition. Donc quand je vous parlais des piliers par rapport aux ailiers, aux arrières, aux ouvreurs, c'est plus difficile, c'est très très bien. Ouais. Que ce soit Malcolm Marx. Voilà.
Non, monsieur, je suis d'accord, c'est très très bien que ce soit Malcolm Marx, et il le mérite totalement. Évidemment que Feinberg et Gomezulo, il y a un poste plus exposé où c'est plus simple de briller.
Je croyais que tu aurais voté Pollock.
Pollock, il est même pas titulaire avec le 15 de la Rose. J'aime beaucoup Henri Pollock, mais.
Ouais,
mais
t'aimes beaucoup, il te fait kiffer. Arrête.
Non, mais.
C'est quoi, son côté détestable?
Ouais, j'aime bien. Puis il est anglais, j'aime bien. Mais Julien, par contre, juste Sacha Feinberg fait autant de matchs avec l'Afrique du Sud que Malcolm Marx cette année. Donc c'est pas, il fait pas deux mois. Il joue le rugby championship. Il est devenu l'ouvreur numéro 1 des box.
Il a explosé avec cette statistique contre l'Argentine. Non, mais je suis d'accord avec toi.
Et même, enfin, je trouve que sur le terrain, même, je l'ai revu là en Champions Cup contre La Rochelle, il fait des trucs où tu te dis, on va se le manger pendant 10 ans et ça va devenir assez facilement le meilleur ouvreur de la planète. Il a tout ce qu'il faut pour briller. Ouais. Il est incroyable.
Il sera lui l'année prochaine le meilleur international.
Très probablement. Mais Malcolm Marx, évidemment, le mérite.
Avec Pierre, on s'est fait les headlines de Feinberg. Là,
non, mais
en
novembre, ça n'a pas de sens.
C'est là où ça nous a marqué, parce qu'il est dur, il plaque fort.
Il plaque fort, il va vite.
Il a tout, il a le pied, il a les bases.
C'est encore le tir au but. Les qualités naturelles d'un joueur sud-africain, avec en plus la classe.
Une classe sur le terrain qui est. Non, il est incroyable.
Bon, mais c'est pas lui qui a gagné. C'est Malcolm.
Possible.
C'est Malcolm.
Jouer partout derrière.
Gagné. Dernière catégorie. Alors, c'est une catégorie bonus, messieurs, dames. Nous allons maintenant désigner le meilleur commentateur du monde, de l'univers, d'RMC du rugby. Et là, je peux vous dire qu'il y a quand même une sacrée concurrence. Le premier nominé, vous le connaissez tous, c'est évidemment Wilfried Templier. Écoutez cette voix à la fois suave, douce et virile.
On l'a pas.
L'essai castré ! Après la chevauchée d'Arata Ora qui a ramassé ce ballon, j'ai pas vu dans la main de joueur, mais ils ont marqué.
Oh, les frissons, quoi.
Arata Ora, c'est pas facile à dire. Feinberg
à côté de Templier, c'est rien.
Ah bah, rien.
Les trucs qui
provoquent.
Deuxième nominé, il nous vient de La Rochelle, ce club qu'il a bien failli amener au bouclier de Brennus il y a quelques années, avant de se reconvertir avantageusement au commentaire. Wilfried Templier.
Pour Flamand à hauteur pour Gelon.
Oh,
la combinaison.
Incroyable.
Ils en sortent toujours comme ça dans les matchs. On a levé le ballon pour Gelon, je lançais, personne n'a pu l'arrêter. Eh bien, ce n'était que reculer pour mieux sauter.
Je prends des notes.
On ne sait jamais.
Ce n'était que reculer pour mieux sauter.
Voilà, ça, il fallait la finir à sortir. Enfin, le dernier nominé, il suit les matchs du Stade Toulousain depuis des années, a permis d'éviter à Toulouse une amende incroyable et surtout, il s'exprime dans un français, écoutez-le, châtié plus que parfait.
Il vient à Penaud. Il va égaliser Blanco.
Égaler, c'était bien mieux. Ouais. Mais bon, fallait customiser un peu tout ça. Ouais. Dis donc, t'aimes pas ce que te fait Adrien Aigouin? Tu te venges, toi, Christophe Cessieux?
On m'a soumis cette catégorie. Hein. On m'a soumis.
Pas qu'il y ait eu cette idée, mais c'est vraiment pas.
C'était brillant.
En tous les cas, qui a gagné?
Eh bien, la grande surprise, le vainqueur de cette catégorie n'est autre que. Wilfried Templier.
Bravo. Moi j'ai dit bravo. Après ça, j'espère qu'il va payer un coup à boire.
Merci tous mes collègues.
Tout ce qu'il a gagné sans qui je serais pas là aujourd'hui.
Tu pourrais remercier Denis, sans qui tu n'arriverais pas à faire de si beaux commentaires.
Mais il est parti. Ouais,
et voilà, je pense que c'est contagieux au niveau de la langue. Là, ça...
Voilà donc pour les lauréats de cette année 2025, donc deuxième grande cérémonie des Poteaux d'Or. Que nous réserve 2026 et qu'espérez-vous surtout pour cette année qui s'annonce très excitante puisqu'elle précédera celle de la Coupe du Monde 2027. Messieurs, dames, on va voir un peu quels sont vos vœux pour 2026. On va commencer par toi, Roxane, fidèle supportrice du Stade Rochelet. Tu as été un peu frustrée en 2025.
Un peu.
De quoi rêves-tu pour 2026?
Alors l'année dernière, j'avais dit un Brennus pour La Rochelle. Cette année, je revois mes ambitions à la baisse.
Une phase finale.
Je demande un top 6 pour La Rochelle. Ce serait déjà pas mal. Et que les phases finales soient plus disputées, mais ça, je crois que je ne suis pas la seule à le vouloir. Et ouais, j'ai mis plusieurs vœux. Hein. Et que la France signe un nouveau grand chelem pour le tournoi des destinations.
D'accord, bah, très bien. Ça fait beaucoup de vœux comme ça.
J'espère qu'il y en aura au moins un qui sera
récompensé. Son club, à lui, a connu une superbe année 2025, même s'il lui a manqué le titre en top 14. Alors, oui.
Mais alors, il n'est pas là.
Il
n'est
pas
nous.
Là aujourd'hui.
Mais je vous propose de réécouter son vœu de l'année dernière.
C'est le même.
C'est le même.
On parle de Nicolas Paul Ortiz.
C'est le même que cette année, Nicolas Paul Ortiz.
Évidemment, écoutez.
Et le deuxième, ce serait bien évidemment le grand chelem aussi, avec un retour de Mathieu Jalibert en sélection. Parce que pour moi, ça reste quand même aberrant de voir ce joueur-là en dehors des 42.
Je suis d'accord. Voilà. Il a mis le même. Hein.
Il a mis le même.
Il a écrit la même chose.
Il a écrit
Caramba, encore raté.
Mais peut-être que ce vœu se réalisera. Il réalise quand même Mathieu Jalibert, encore une fois, une superbe automne. Ou pas, oui, tu as raison, ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il peut revenir dans le game ou c'est
rapide ? Julien, explique. Vas-y.
Julien, vas-y.
Non, mais je pense que...
On aimerait tous, en vrai.
On aimerait tous. Après, il y a des affinités aujourd'hui développées par les Toulousains. Antoine Dupont est le dépositaire du jeu de l'équipe de France. Je pense que sur ces temps resserrés de l'équipe de France, c'est plus facile pour lui de jouer avec Romain Ntamack. Et Romain Ntamack apporte plus de sécurité au niveau international défensivement. Bravo, même si c'est... Mathieu Jalibert progresse.
Clair et limpide.
Avec Bordeaux, il défend en 13-2. Donc Mathieu Jalibert ne défend pas sa ligne. Et c'est impossible au haut niveau d'avoir un 10 qui ne défend pas sa ligne.
Même s'il progresse.
Feinberg, c'est un énorme défenseur.
Même s'il progresse. Avec un 6-2 sur le banc.
Voire un 7-1.
Voire un 7-1, ce qui sacrifie ouais. Mathieu Jalibert.
Okay, qui est donc... un excellent joueur de rugby, et encore une fois, c'est absolument pas le débat.
Bon, donc on a bien compris que c'est pas gagné non plus pour Nicolas Paolarsi, ce vœu qu'il répète année après année. On reste avec toi, Julien, avec ton vœu pour 2026. Je crois que ça concerne le sélectionneur, justement, non ? C'est ça ? Ton ami va
oui,
bien.
Oui, effectivement. Ça fait partie de mes fameuses sorties qu'on m'a beaucoup reproché.
Mais non.
Que Fabien Galthié arrête de nous enfumer. Fabien Galthié a le droit de justifier les défaites. Et c'est tout à fait logique du rôle du sélectionneur, de protéger ses joueurs. Il a tout à fait le droit. Je déteste qu'il ouvre les parapluies, qu'il essaye de nous enfumer, comme le jour où il nous avait vendu que les Fidjiens avaient plus de dates que les Français pour préparer les rencontres. Voilà, ça c'est des sorties qui me sortent par les yeux parce que tous les Fidjiens jouent en France, donc on a le même temps. Après, encore une fois, il a plein de circonstances atténuantes, les 5 matchs pour préparer l'Afrique du Sud, clairement c'est pas assez. Les temps de jeu du top 14, c'est clairement compliqué. Mais qu'il arrête de nous enfumer, qu'il arrête de sortir des parapluies, qu'il assume parfois ses choix, qu'il assume des défaites, mais qu'il ne cherche pas à se protéger. Qu'il protège son groupe très bien, mais qu'il arrête absolument de chercher des protections pour tout. Donc voilà, qu'il arrête de nous enfumer.
Julien, Wilfried, Pierre, Roxane, je l'ai trouvé un peu moins langue de bois là, dernièrement, lors du tirage au sort. Non. Enfin, je ne sais pas, dans les extraits que j'ai pas entendu toute la conférence de presse, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus d'accent de sincérité dans ce qu'il disait. Non, je sais, c'est peut-être... Non, t'es pas convaincu, Pierre.
Non, mais je l'ai pas ressenti comme ça. Après, je suis d'accord avec Julien que parfois, c'est... De toute façon, il fait ce qu'il veut en conférence de presse. Il dit ce qu'il veut tout le temps. Quelle que soit la question qu'on pose, s'il n'a pas envie de répondre à cette question, il va répondre complètement à côté. Il sait très bien faire pour enrober, rappeler plein de résultats, rappeler plein de matchs, rappeler plein de chiffres. Je pense qu'on ne le changera pas, malheureusement, même malgré le vœu de Julien. Il est comme ça, c'est sa manière de se protéger et de protéger son groupe. Et il est comme ça depuis le début de son mandat. En effet, ça s'accentue quand il y a des défaites. Ça, c'est un problème que ce Julien.
C'est insupportable les doubles discours où il y a une fois. C'est bon et la semaine d'après c'est plus bon. Moi c'est ça qui me fatigue, c'est qu'une fois le top 14 c'est génial et qu'une fois c'est catastrophique. Donc voilà, c'est juste, parfois ça manque de cohérence en fonction des résultats du match.
Bon, moi je te souhaite un truc, Julien, en cette année 2026, que tu obtiennes une interview en one-to-one avec les sélectionneurs et je vous fournirai les gants de boxe à tous les deux pour non, savoir.
J'ai passé pour tout vous dire, j'ai passé 5 ans à chambrer Fabien Galthié à Montpellier. Et il s'en souvient, il était parti une fois au Brésil alors que de Montpellier jouait en top 14.
Je me souviens de ça.
Je l'avais accueilli en conférence de presse avec Si tu vas à Rio, la chanson, j'avais mis Si tu vas à Rio dans la salle de conférence de presse. Il avait éclaté de rire. Donc voilà, il se fait bien, ça fait voilà, je l'ai pratiqué longtemps, il sait comment je suis, donc je n'ai aucun souci avec ça. Mais c'est pour ça que je me permets parfois d'être peut-être un peu plus cassant que certains, parce que je le connais, je l'ai pratiqué et je sais comment il fonctionne.
On va quand même confectionner des t-shirts avec Fabien, arrête de nous enfumer.
Oui, ça c'est excellent, excellent. Et en conférence de presse, toute l'équipe d'RMC les
porte nous aider dans les relations.
Wilfried le premier, au premier rang, tu sais, avec son micro RMC. Wilfried, tu as déjà interviewé le sélectionneur justement en one-to-one. D'ailleurs, il met la pression tout de suite. Hein. Tu me l'as raconté la dernière fois. Il sait bien mettre la pression aux journalistes qu'il a face à lui quand même. Hein.
Oui, mais comme il a raison de dire, il répond ce qu'il veut en fait. Et puis, c'était l'histoire, il me disait de le regarder dans les yeux. Parce que vous savez, quand on fait une interview, on regarde un peu les questions, on écoute la régie, le timing, et voilà. Et après, il conseillait de regarder dans les yeux.
Il le disait pour toi, hein. C'était pour toi.
C'est oui,
pour
c'est vraiment pour progresser.
C'est un conseil.
C'est juste là, t'as fait ce que tu veux. On est plus proche de Didier Deschamps que de Fabien Galthié.
On peut pas imiter tout le monde à la perfection.
C'est d'ailleurs le vœu de Georges Quirino, c'est que les poteaux élargissent leur palette
d'imitation. Oui, parce que là, on est quand même un peu resserré.
Il y en a trois.
Donc,
quoi.
On va essayer d'ouvrir un peu la palette. Et l'année prochaine, on fera une vraie catégorie. Et là, on écoutera les meilleurs imitateurs. Wilfried, ton vœu pour 2026 ?
Moi qui ai des affiches qui soient moins déséquilibrées, j'en ai marre des dimanches soirs où bon, faut dire qu'en suivant le Stade Toulousain, parfois les équipes mettent pas tout quand elles viennent à Ernest Vallon ou au Stadium, mais j'ai fait un Toulouse-Castres 59-12, un Toulouse-UBB 56-13, un Toulouse-Toulon 59-24 où Pierre Mignoni avait gardé ses forces vives pour le week-end d'après où il jouait un match important à Mayol. Donc les primes, les affiches du dimanche soir que le top 14 met en avant, quand c'est plié à la mi-temps et qu'il y a 60 points, ça me gêne.
C'est la formule du top 14 qui veut ça aussi, Wilfried.
Oui, c'est vrai. Ben, je ferais peut-être pareil à leur place, les managers, mais quand on est spectateur, téléspectateur, commentateur, me suis régalé d'un Montauban-Perpignan qui était à la vie et à la mort.
Il n'y a pas beaucoup de matchs à la vie et à la mort. Hein. C'est ça le problème.
Non, mais des matchs comme ça où vraiment il y a eu un Castres Racing qui n'était pas très beau, mais au final, à la fin, qui s'est enflammé et les Racingmen sont tirés une balle dans le pied avec un dégagement contré d'un but de Carbono et derrière Castres a renversé le match, mais au moins il se passe des choses quoi. Donc peut-être que les spectateurs et téléspectateurs sont contents de voir des ribambelles d'essai, mais quand il y a des matchs il y a 30 points d'écart à la mi-temps, moi ça m'ennuie. Et donc voilà, je voudrais juste que
du coup, l'after t'oublie et tu t'énerves, tu poses ton casque, ils te prennent pas en plus, donc tout est parfait quoi.
Pour taper à la porte de l'antenne, c'est pas génial quand vous avez les photos de l'autre côté, mais c'est normal qu'on a envie de plus. Vous imaginez que si des PSG Marseille ou Monaco Marseille se terminaient à chaque fois par des 6-1 plusieurs fois, on se poserait des questions.
Mais venez un peu plus souvent le samedi après-midi à 16h30, vous verrez les matchs
ils sont là souvent.
C'est vrai qu'ils sont. C'était une boutade.
Donc voilà. Ils sont les tauliers.
Très bien. Voilà donc pour le vœu de Wilfried. Pierre, son vœu à toi.
Dans la même lignée que celui de Wilfried, c'est un nouveau vainqueur en top 14.
Ah, donc non, quoi, non, le Racing, les Atlantais.
Non, pas du tout. Alors là,
Parisien.
Non, pas du tout. Non, et c'est pas du tout contre Toulouse, mais je trouve que ce championnat mériterait d'être un peu plus disputé. C'est dans la même chose, mais plutôt en phase finale aussi. Après trois titres toulousains. Et non, mais je trouve que le Stade toulousain a été hyper intéressant en fin de saison dernière, après sa défaite contre Bordeaux en Champions Cup. Je trouve que quand cette équipe-là perd, ça rajoute une dimension un peu à ce top 14 qui devient tout de suite beaucoup plus intéressant. On se dit, ah, Toulouse, et c'est possible
ils
de battre
humains.
Toulouse, ils sont humains. Et du coup, ça fait que Toulouse est encore plus fort derrière. Enfin, je pense que ça aiderait le top 14 si Bordeaux ou Toulon, par exemple, parce que c'est les deux qui semblent être capable, surtout Bordeaux, de le faire, qu'une autre équipe gagne le top 14, je pense que ça ferait du bien à ce championnat. Ça montrerait qu'il n'y a pas une hégémonie absolue du Stade Toulousain. Et puis pour le 15 de France, je ne suis pas parti sur le 6 Nations, mais plutôt sur la tournée de novembre. Enfin battre les box en novembre prochain.
Et oui, parce qu'ils reviennent.
Ils reviennent. Et je pense qu'éviter une troisième défaite au Stade de France de suite, ça pourrait être une belle idée.
Ouais, avant la Coupe du Monde en 2027, où on ne les retrouvera pas tout de suite, puisqu'il faudra sans doute attendre encore que. Hein, mais normalement, pas avant les demi-finales. Denis, l'apôtre du rugby à l'ancienne, qui nous a quittés, évidemment, le roi de l'ovalie des clochers du Sud-Ouest rêvait, lui, que Cahors batte Gaillac en finale de fédéral. Voilà.
N'importe quoi.
C'était sans doute...
C'est une vieille histoire avec Moscato.
Voilà, exactement, puisque les deux sont issus de la même région et qu'ils se sont sans doute affrontés lorsqu'ils étaient tout jeunes. Parmi les autres vœux, donc, Roxane l'a dit, Georges Quirino, que les poteaux élargissent leur palette d'imitation. Romain Asselin nous dit « Retirez les Sudaves de la Coupe d'Europe ». On en parlait la semaine dernière.
De la Coupe du Monde.
Non.
Ah, aussi, peut-être.
Arthur Jean nous dit les croisés pour Pollock, ça c'est pas gentil.
Oh, non,
pas de souhaiter le malheur d'un adversaire, même s'il est anglais.
Mais vous allez adorer le détester en plus. Il va vous faire des débats pendant 10 ans.
Et puis Damien Tardieu, notre correspondant en Auvergne, nous dit des arbitrages vidéo qui ne durent pas 35 minutes. C'est vrai que je partage aussi ce vœu-là.
Merci, Julien. Monsieur Charabas soit là alors.
Oh, j'étais sûr qu'il allait prendre un tir, Thomas Charabas.
On l'embrasse.
L'arbitre vidéo le plus long de la planète.
Et toi, Christophe ?
Mais non, mais moi j'avais dit une interview en one-to-one avec Julien et Fabien Galthié. Et donc, qu'on soit tous autour, vous savez, en rond autour, comme dans un combat de cage ou dans une cage de MMA, ça pourrait être sympa. Ah,
Paul Amar, il dirait comme à Denis, il dirait tout à fait Julien.
Merci les potos, c'est un plaisir une nouvelle fois de vivre cette année 2025 avec vous. Il va se passer passer plein de choses en 2026 et on sera très heureux de vous retrouver dans un an pour la troisième cérémonie des Poteaux d'Or. Un petit générique s'il vous plaît quand même, parce que là ça nous manque le générique de début là, hein. Allez, ouais. On se le remet là. Allez, on se le remet. Il a disparu, il est parti. Ah voilà.
Ah. Ça te fait kiffer, hein?
Ah, ça me fait kiffer, j'ai c'est l'impression d'être Michel Drucker. Ouais.
Jean-Pierre Foucault,
Jean-Pierre Foucault.
Plutôt. Genre, vous êtes de la même génération.
Ouais, en plus, ouais.
Allez, bref, on se quitte et on se retrouve en 2026. Non, on se retrouve très, très prochainement, puisque les poteaux ne s'arrêtent jamais, même en période de fête de fin d'année. Bonne soirée et à bientôt. Ciao.